ce que je vais vous dire sont de vieilles histoires et que j'ai retrouvées au fond de ma mémoire. C'est votre micro qui me les rappela.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié.
Regardez-les tomber, comme elles tombent bien. Dans ce trajet si court de la branche à la terre, comme elles savent mettre une beauté dernière. Et malgré leur terreur de pourrir sur le sol, comme elles veulent que cette chute ait la grâce d'un vol. J'avais toujours eu envie de faire du théâtre, mais mon père s'y opposait complètement. Il était de la vieille bourgeoisie. Ma mère y consentait. Mon père a accepté alors que je fasse de la peinture. Je suis allé à Paris, entré à l'atelier Juillan, mais j'avais toujours envie de faire du théâtre. J'avais pris des leçons avec André Bruno. Et c'est grâce à Raymond Poincaré que connaissait ma famille, et c'est Poincaré qui a fait céder mon père. Ici, c'est le théâtre de verdure du Bosquet d'Apollon, que j'ai fait avec mon camarade Romuald Joubet, de la Comédie française. Ah, il en a charrié des brouettes de terre, ah, il a transpiré des chemises. Et nous l'avons inauguré en 1932 et les représentations ont eu lieu jusqu'en 1952. Et sur cette pierre-là, il y a toutes les représentations qu'on a données, tous les titres. Et avec Colonna Romano de la Comédie française, Nisan de la Comédie française, Romuald Joubet du Théâtre français, Alcover du Théâtre français et bien d'autres. Et sans oublier Ninon Valin, qui a été une cantatrice admirable, et Yolande Balvet de Tesse, qui a joué Mireille de Gounod. On devait inaugurer le théâtre de verdure du Bosquet d'Apollon en 1932 avec deux spectacles, Sophonisme et Circé d'Alfred Poisat, deux pièces qui étaient à la Comédie française. Et il y est arrivé des trombes d'eau au milieu du premier acte. On est rentré en vitesse et Colonna Romano, qui jouait Sophonisme, a dit oh, écoutez, il y a des journalistes de Paris, il y a des journalistes un peu partout, il faut quand même leur jouer Sophonisme. Et on l'a joué dans ce salon, dans ce mobilier Louis-Philippe, Empire et Retour d'Égypte, dans tout cet ensemble. C'était très curieux de voir cela, mais le talent de Joubet et de Colonna a été prodigieux. À un moment donné, Circé croit à son mari Syphax mort et on le lui ramène. Et entre-temps, elle a épousé Massinissa. Elle croit que Syphax va tonner et rien du tout. Syphax lui dit « Vivez heureuse avec Massinissa ». Et Joubé a joué cette scène dans un tel mouvement de désespoir qu'il est, en sortant, il est tombé sur un coffre qui est là dans l'antichambre. Il s'est mis à pleurer. Pendant 20 minutes, il a pleuré. Ça avait mis Colonna dans un tel état que ce dernier acte, où elle a bu la ciguë, où elle est empoisonnée, elle a été sublime. Tout le monde pleurait. Même les gendarmes qui étaient venus là pour le dernier acte, parce qu'on avait remboursé le public, ils n'avaient plus rien à faire. J'ai consacré ce salon à Wagner parce que ma mère aimait beaucoup Wagner et m'a appris à l'aimer. Là, ici, c'est la fin de la Valkyrie. Quand Wotan, pour punir Brunehilde de sa fille rebelle, va l'endormir et l'abandonner sur un rocher. Mais elle le supplie que ce ne soit au moins qu'un héros qui pourra la posséder, puisqu'elle est appelée à devenir une mortelle et à perdre d'être déesse. Wotan accepte. Il l'endormira, la couchera et puis appellera Loge, le dieu du feu. Elle lui ordonnera de faire une barrière de feu infranchissable. Seul un héros, celui qui n'a jamais connu la peur, pourra la franchir. Voilà le sujet de ce premier panneau que Hobby a peint. Mais Hobby aurait voulu faire ça très très moderne, comme son genre, c'est son genre. Mais moi je n'aime pas. Et puis Wagner, mon Dieu, n'est pas moderne. Il fallait le traiter comme lui-même l'aurait vu, avec les costumes qu'il avait dessinés lui-même. Et voilà pourquoi, on dira un peu, peut-être que c'est pompier, mais c'est ma faute. Parce que j'ai voulu restituer à Wagner son cadre réel. Maintenant, tenez, j'aimais tellement la Valkyrie que c'est moi qui suis cause qu'elle a été donnée pour la première fois au Théâtre Romain d'Orange. Le directeur, René Berton, était un ami très intime de mon ami Romuald de Joubé, avec qui j'avais joué souvent. Et alors, je m'étais lié avec lui, et il venait ici faire son programme, il m'apportait son programme. Et il avait mis Lohengrin au programme. Oh, je lui ai dit, non, Lohengrin, mon pauvre ami, c'est impossible. Mais sur quoi allez-vous faire arriver le cygne sur ce plancher? On ne peut pas, ça va être ridicule. Et puis, à la fin, quand il faudra qu'il plonge dans l'eau, alors, et par où sortira-t-on l'enfant? Non. Et puis, voyez, il y a les cœurs, ça va vous coûter cher. Non, il vaut mieux, tenez, donnez la Valkyrie. La Valkyrie, vous éviterez les cœurs. Et il a monté la Valkyrie. C'est du reste la seule fois où il a gagné de l'argent. Il a gagné 16 000 francs, les 16 000 francs que lui auraient coûté les cœurs s'il les avait fait venir de Genève, comme il le faisait d'habitude. Le panneau en face de la Valkyrie est la troisième journée de la tétralogie. C'est Siegfried. C'est la fin de Siegfried, le moment où Siegfried, ayant tué le dragon Fafner, a compris le chant des oiseaux. Et l'oiseau lui a indiqué Brunhilde qui dormait et qui attendait le héros qui la réveillerait. Un peu l'histoire de la Belle au bois dormant. Et alors Siegfried est allé, a vaincu les flammes, a passé à travers les flammes qui se sont éteintes et il a découvert la femme qu'il n'avait jamais vue et connue avant. Et alors, là, il a connu l'amour et la Valkyrie s'est réveillée sous ses baisers. Maintenant, avec les nouvelles mises en scène pour la chevauchée de la Valkyrie, on ne voit plus la chevauchée, on ne voit plus les Valkyries, ce sont des éclairs. Il passe 9 éclairs pour symboliser les 9 Valkyries. Voilà la mise en scène de maintenant. Dans ce petit salon, il y a une chose encore qui est intéressante. C'est ce portrait de ma trisaïeule qui a reçu Napoléon quand Napoléon était lieutenant à Valence. Il allait chez elle pour jouer aux cartes. Et ils sont restés en relation épistolaire avec le mari de ma trisaïeule, Blachette. Et Napoléon leur a envoyé ce petit médaillon-là qu'il représente en empereur. De mon cousin Camille de Saint-Prix, qui était un grand ami de Courbet. Ils travaillaient souvent ensemble et l'un finissait la toile de l'autre. Ils les échangeaient et Courbet signait celle qu'il avait faite et qui était finie par de Saint-Prix. Et de sorte qu'il y a beaucoup d'amateurs qui ont dit Courbet où il y a beaucoup de Saint-Prix dedans. Cette photographie me rappelle de bien vieux souvenirs. Elle date de 1901. À cette époque, mon oncle Albert Richard, le frère de maman, épris d'automobile, qui était à ses débuts, avait construit une voiture de course. lui-même, avec l'aide d'un serrurier, d'un mécanicien, avait-il même un tourneur, ça je ne sais pas. Mais toujours, la voiture a marché et il est arrivé le premier ou un des premiers à la course du Mont Ventoux. Cette partie du parc était autrefois toute en vigne. Il y a de ça plus de 80 ans, puisque moi j'en ai 85, j'ai vendangé beaucoup là-dedans. Mais maintenant, voulez-vous, avec les salaires, les charges sociales, on n'a pas pu continuer, c'est à l'abandon. Et c'est ce qui explique que beaucoup de fermes sont fermées et de terres abandonnées. On ne peut plus. Les produits de la terre se vendent trop bon marché et ceux qui les revendent, ils gagnent beaucoup, je vous assure, sur le dos des paysans. Ce parc de Borgard est destiné, après moi, à devenir un jardin public. Et j'ai voulu qu'on y conserve le souvenir de tous les grands artistes qui nous ont prêté leur concours au Bosquet d'Apollon. Et c'est pour cela que chaque allée porte le nom d'un de ces grands artistes. Votre micro me rappelle une aventure qui a tourné un peu au tragique pour mon ami Romuald Joubet quand il jouait La Passion d'Arnoul de Gréban sur le parvis Notre-Dame, monté par Pierre Aldebert, avec 3000 figurants. Et la garde républicaine à cheval, avec les costumes romains, bien entendu, ils avaient abandonné leurs costumes de garde républicain. Et la croix avait 7 mètres de haut. C'étaient les charpentiers de Paris qui devaient la dresser quand Joubet, le Christ, était sur la croix. On a levé la croix, mais depuis la veille, on avait mis des micros dans la salle et Joubet ne le savait pas. Quand la croix a été dressée, y avait-il du vent? Les charpentiers ne l'avaient-ils pas bien assise? Toujours est-il que la croix remuait. Et Joubet, du haut de la croix, dit, pour être entendu de ceux qui étaient en bas, « Nom de Dieu, la croix remue oh !» Le Christ jurait comme un charretier. Voilà mon théâtre de marionnettes quand j'étais enfant. Et je vous assure que c'est lui qui m'a fait attraper le microbe du théâtre et m'a habitué à être comédien. Nous y avons joué des pires drames, même Hernani, en prose, oui. Parce qu'on n'apprenait pas la pièce, on la lisait et puis on l'interprétait. Voilà.
Altesse,
j'ai l'honneur de venir vous dire que monsieur votre père, notre roi, s'oppose à votre mariage avec le duc de Nuremberg. Oh, catastrophe !
Anthony Réal, le directeur du théâtre antique d'Orange, avait demandé à Sarah Bernard de jouer Phèdre dans une corégie. Sarah avait accepté, mais avec sa troupe. Elle avait demandé un cachet de 30 000 francs. C'était bien avant la guerre de 14. Mais dans le contrat, elle avait exigé un bain de lait. Et là, ce n'est pas la Normandie, Orange. On avait été obligé de garder le lait pendant plusieurs jours. Et quand Sarah était dans le bain, le lait a tourné et a caillé. Il a fallu la doucher pour la nettoyer. En 1914, le théâtre de Reims m'avait engagé pour créer le premier rôle d'une épopée en vers sur l'aviation. C'était la traversée des Alpes par Chavez et sa mort sur le sol italien. J'ai accepté. Avant moi, ils avaient pressenti Sarah, qu'il aurait joué en travesti. Mais Sarah Bernard n'avait pas envie d'aller à Reims, et en plus, elle avait déjà sa tumeur blanche. Elle ne pouvait pas accepter. Alors, ça a été terrible. J'avais 40 minutes d'agonie sous les débris de l'avion. Ah, je souffrais pour moi et pour le public. Et en me soulevant, je disais, « Oh, mes membres meurtris !» Oh, cette, vous savez, je souffrais réellement pour le public. Oh, si le lendemain, j'ai demandé des coupures, ça n'a duré que 22 minutes, et c'était encore trop, je vous assure. Mais après, j'étais obligé d'aller en donner une représentation à Épernay, qui dépendait du théâtre de Reims. Là, je voulais repartir par le train de minuit 12. Alors, on m'a dit, c'est impossible, c'est trop long. Mais j'ai fait tellement de coupures que le dernier acte a duré 10 minutes. Et Matto, un des artistes qui donnait la réplique, m'a dit, ben, vous avez fait du beau travail, l'auteur est dans la salle. Je lui dis ce que je m'en fiche, moi. Mais l'auteur est arrivé et m'a dit, oh, Saint-Prix, c'était bien comme ça. Ça n'a jamais été si bien. Et il a fait les coupures quand il a publié son livre.
Vraiment, Saint-Prix, vous avez pris l'avion il n'y a pas très longtemps?
Oh non, il n'y a pas longtemps, c'était au mois d'août, à Saint-Rambert, pour aller à Montélimar voir mon cousin.
Vous êtes très à l'aise dans...
Oh, mais c'est que j'avais l'habitude d'aller en avion. J'y suis allé du temps mon numéro Tessis a bâti. Je vous parle en 1911, 12, 13 et 14. J'avais 60 heures de vol quand la guerre a éclaté. Mais comme passager, pas comme pilote.
Vous avez été très, très proche du progrès.
Quel progrès?
Le progrès qui environne le péage de Roussillon, le progrès qui...
Bah, il s'est fait doucement, je m'y suis habitué, que voulez-vous? Et il ne me déplaît pas.
Vous vous y sentez à l'aise?
Mais oui.
Et vous vous sentez pas un peu dépassé?
Mais non, il faut vivre avec son temps.
Vous avez vécu avec votre temps?
Ah, je vous avoue que mon temps était plus agréable que le temps de maintenant. Ah, de beaucoup. On l'a appelé la belle époque. Et c'était la belle époque, je vous jure. Et pour les arts, et pour la littérature, et pour tout. C'était mieux que maintenant.
Pourquoi c'était mieux?
Parce que les gens connaissaient mieux leur métier, étaient plus capables et plus consciencieux dans ce qu'il faisait.
Le théâtre a beaucoup évolué depuis votre époque.
Ah oui, oh, alors ça oui, je vous dirais que le théâtre autrefois était tellement mieux que maintenant. D'abord la présentation, les décors de Jussaume à l'Opéra Comique, c'était des merveilles, et à l'Odéon aussi, c'était les deux théâtres qui avaient les plus beaux décors, et qui avaient Jussaume comme décorateur. Et puis, il y avait des artistes qui étaient des réputations mondiales, comme nous n'en avons plus. Il y avait Sarah Bernhardt, il y avait Mounet Sully, il y avait Ray Jeanne, Guitry et tant d'autres.
Vous aimez la vie ici actuellement ?
Mais je vis très retiré, je vous dirai. Je vis dans la maison, dans le parc, avec mes souvenirs. Voilà pourquoi je vis.
La solitude n'est pas un gros problème ?
Oh, hélas, depuis que j'ai perdu maman, oui, c'est un gros problème pour moi, mais enfin, je m'y habitue.
Vous franchissez souvent le portail ?
Ben, quand il le faut, mais le moins souvent possible.
Vous préférez rester ici ?
Oui. Je préfère vivre avec mes souvenirs et oublier le temps présent. Dans ce site, il y a deux lieux, dont l'un est un théâtre et l'autre une chapelle. Et l'on peut, dans un juste milieu, aller vivre entre le monde et Dieu.